Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Une nouvelle thématique afin de ne pas oublier l'histoire de ces peuples d'Amérique, afin de ne pas oublier ces hommes, vivants ou morts, qui participent à la reconnaissance des droits de l'homme, à la reconnaissance des droits des Indiens. Cette série de portraits est tirée de courrier international et date de 2007. Canada, Michèle Audette, militante féministe, 35 ans. Elle est devenue indienne en 1985. Mariée à un homme blanc, sa mère avait perdu son statut d'amérindienne en vertu d'une clause de la loi sur les Indiens datant de 1876. Enfant, la jeune métisse a du mal à se définir. Indienne des Indes pour ses camarades de classe à Montréal, blanche pour ses cousins de la réserve Innu de Malioténam, sur la rive nord du Saint-Laurent. Elle ne maîtrise toujours pas parfaitement le montagnier, sa langue maternelle algonquine, et le regrette. Comme elle le dit, « Mais je ne l'ai pas choisi. » Reprenant le flambeau de sa mère, qui a beaucoup lutté pour retrouver son statut d'indienne, Michèle Audette a fait de la cause des femmes indiennes sa principale occupation. Ancienne présidente des femmes autochtones du Québec, aujourd'hui sous-ministre à la condition féminine, elle se bat pour les droits de l'un des groupes les plus pauvres du Canada. Leur situation les relègue 30 ans en arrière par rapport aux autres femmes du Québec. Elle milite ardemment pour l'abolition de la loi sur les Indiens, modifiée en 1985, mais qui contient toujours plusieurs clauses discriminatoires envers les femmes. La loi sur les Indiens n'a jamais remis en question le statut des femmes par rapport à celui des hommes. Le problème a simplement été reporté à la génération suivante. Les hommes nous voient comme les piliers de la nation. La femme lègue encore à ses enfants la culture, la langue, les traditions et les valeurs indiennes. Mais nous ne faisons pas qu'enfanter des bébés. J'ai un rôle à jouer dans la participation civique et démocratique d'une société. J'ai mon mot à dire. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Au Brésil, Joênia Batista de Carvalho, avocate, 33 ans. Elle aurait pu devenir institutrice, comme beaucoup de jeunes femmes d'origine indienne éduquées. Mais Joênia Batista, qui se dit rebelle depuis son plus jeune âge, choisit l'arme du droit pour mieux faire avancer la cause des siens. Elle devient ainsi la première avocate amérindienne du Brésil et défend les droits des peuples indiens, menacés par l'invasion des entreprises, des cultivateurs et des chercheurs d'or et de diamants. Joenia aime aussi se présenter sous le nom de Wapixana, du nom de sa tribu d'origine dans l'état de Roraima, situé dans le nord du Brésil, et sous lequel elle décide de recevoir, en mars 2004, le prix américain Reebok des droits de l'homme, qui récompense le travail de jeunes militants dans ce domaine. Elle s'est notamment battue pour contraindre le gouvernement de Lula à finir de délimiter la réserve Raposa Serra do Sol, située dans l'état de Romera, où vivent près de 15 000 personnes, dont des Wapixana et des Makuti, et en a obtenu la ratification en avril 2005. Elle est aujourd'hui juriste du Conseil indien du Roraima, le CIR, et a récemment participé au nouveau Forum des Nations Unies sur les questions autochtones. Comment avons-nous pu, en tant que peuple, continuer à exister? Parce que nous savons d'où nous venons. Grâce à nos racines, nous voyons dans quelle direction nous voulons aller. Oh. Et qu'en est-il aujourd'hui, en 2014? Équateur. Manuel Humberto Cholango, Timpa Luisa, leader indien de 31 ans. Ce jeune équatorien, membre du peuple Kayambi, dans le nord du pays, intègre très jeune les mouvements indiens qui militent pour la récupération de leurs terres. Instigateur de grèves et de marches pacifiques, Humberto participe au renversement des présidents Abdallah Bucaram en 1997 et Jamil Mahuad en 2000. Diplômé en gestion locale et développement, devient en 2003 président d'Ecuarunari, la confédération des peuples Quechua des Andes équatoriennes, une des plus grandes organisations indiennes du pays. Farouche opposant au néolibéralisme, il est emprisonné durant 24 heures en décembre de la même année par le président Gutiérrez pour avoir critiqué sa politique pro-américaine. Humberto s'est aussi battu pour l'expulsion en avril 2006 de l'entreprise pétrolière américaine Oxy, implantée dans le nord du pays, en pleine Amazonie. Mais il lutte également à une autre échelle, celle de la Bia Yala, nom donné au continent par les Indiens avant l'arrivée des conquistadors. Dirigeant de la Coordination des organisations indigènes andines, le COIA, il veut faire prendre conscience au peuple indien que c'est en s'unissant qu'ils parviendront à imposer leur propre agenda. Un souhait réitéré en présence de son ami Evo Morales lors du troisième sommet continental des peuples et nationalités indigènes d'Abia Yala qui s'est tenu au Guatemala en mars 2007. Nous, peuple indien de la zone andine, voulons devenir non seulement un mouvement social, mais aussi une véritable force politique. Aho. Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? Aux États-Unis, Vinnie DeLoria Jr., écrivain, décédé en 2005. Juriste, essayiste et enseignant. Vinay de Lauria Jr., qui est considéré comme l'un des personnages les plus influents du monde amérindien, est mort à l'âge de 72 ans, en 2005. Né en 1933, pendant la Grande Dépression, près de la réserve de Pine Ridge, l'une des plus pauvres du pays. Vinay de Lauria est fils de pasteur et il a lui-même obtenu un doctorat de théologie à la Lutheran School of Theology. Contestataire, remarqué dans les années 1960-1970, il fait irruption en 1969 dans la conscience des Américains en publiant un best-seller, Custer Died for Your Sins. Custer est mort pour vos péchés. Où il dénonce les clichés anti-indiens de la conquête de l'Ouest. Il écrira par la suite une vingtaine d'autres livres sur l'expérience des Indiens d'Amérique. Son anthologie de textes philosophiques, Spirit and Reason, a été saluée par la critique. Il a par ailleurs été l'avocat des accusés du procès de Wounded Knee, au cours duquel furent jugés les militants de l'American Indian Movement qui avaient occupé le célèbre site en 1973. La grande innovation du christianisme consistait à prêcher un message de résurrection des corps, dans lequel la totalité de la personne est reconstitué. Les religions tribales partent simplement du principe qu'il existe une forme quelconque de survie individuelle au-delà du tombeau. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? En Bolivie, Alvaro Garcia Linera, vice-président, 45 ans. Garcia Linera n'est pas d'origine indienne, mais c'est tout comme. Très présent dans les médias, ce natif de Cochabamba est considéré comme le théoricien du réveil identitaire indien et comme l'une des têtes pensantes du gouvernement d'Evo Morales. Ses positions tranchent avec les précédentes stratégies de lutte pour le pouvoir de la gauche bolivienne, pour laquelle il n'y avait pas d'Indiens, mais des paysans. Pour cet intellectuel autodidacte, les Indiens doivent au contraire former le noyau des luttes sociales et des forces de rénovation morale et intellectuelle du pays. Ce qui lui fait dire qu'il faut réindianiser la société bolivienne et ses institutions. À 13 ans, il lit déjà Engels et Kant. Et à 15 ans, il a englouti les trois tomes du Capital de Marx. Il part faire ses études au Mexique, où il entend parler pour la première fois de multiculturalité, ainsi que des débats au sujet de la présence d'Indiens mayas dans la guérilla guatémaltèque. De retour en Bolivie, il s'engage en politique. Convaincu que le changement passe par la lutte armée, il participe à la guérilla Tupac Katari, conduite par le très radical Felipe Quispe, ce qui lui vaudra d'être arrêté en 1992 et de passer 5 ans en prison. Il y étudie alors la sociologie, qu'il enseignera dans diverses universités. Ses recherches le conduisent à se rapprocher d'Evo Morales, qu'il soutient à l'élection présidentielle de 2005. Nous ne pensons pas au socialisme dans un futur proche, mais à une révolution démocratique, décolonisatrice profonde. Ah oh. Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? Colombie, Abadio Grinstosel, universitaire et poète, 50 ans. Né à Sasarli, Nulatupu, au Panama. Ce membre de l'ethnie Kuna, un peuple des Caraïbes, qui vit le long de l'Atlantique, au Panama et en Colombie, est à la fois philosophe, théologien, linguiste et poète. Lorsqu'il fut élu pour 5 ans président de l'Organisation nationale des Indiens de Colombie, l'ONIC, en 1993, Abadio Grinstosel, alias Manipiniktikia, son nom Kuna, déclara qu'il serait désormais Ambera, Guanamo, Pirao, Nasa, Ishkun, Wayu, Guambiano. Bref, qu'il représenterait tous les peuples de la région. Il fut ensuite 2 fois élu président de l'Organisation des Indiens d'Antioquia, l'OIA, alors que la majorité des Indiens de ce département du nord-ouest de la Colombie sont d'origine Imbera. Il a fait des études de théologie à l'Université de Medellín pour mieux approfondir sa culture d'origine. C'est en effet en étudiant la cosmogonie chrétienne, explique-t-il, qu'il a compris la cosmogonie Kuna. La langue et les mots sont pour Abadio Green des vecteurs indispensables de la culture. Il s'est donc attaché, tout au long de son double parcours de dirigeant indien et d'universitaire, à promouvoir l'éducation et la culture des peuples indiens, notamment en organisant à l'échelle régionale et nationale la formation d'instituteurs indiens bilingues. Il fait ainsi partie des 10 représentants nommés par le ministère de l'Éducation nationale colombien dans le cadre du plan décennal d'éducation 2006-2015. Et il y est actuellement professeur et coordinateur du programme d'éducation indienne de l'Université d'Antioquia. Il consacre par ailleurs une grande partie de son temps à la poésie. Dès l'école primaire, on commence à t'enlever un œil pour te mettre un autre œil. On commence à t'enlever la langue pour te donner une autre langue, afin que tu écoutes les autres savoirs, ceux de l'autre culture. Et plus on avance, plus on meurt. Ah oh ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? Au Canada, Thompson Highway, écrivain et musicien, 55 ans. Il est né dans un tipi, au Manitoba. Il a connu l'enfer des pensionnats catholiques, abus sexuels compris. Il est cri, il est gay. Il joue Chopin et il écrit. Thompson Highway, 55 ans, est l'auteur indien le plus célèbre du Canada anglophone. Sa philosophie, cesser de se plaindre et célébrer la vie. Il n'oublie pas pour autant d'où il vient. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il a vécu comme un nomade dans la nature. Du jour au lendemain, le petit sauvage est transplanté dans un pensionnat, ainsi que son jeune frère. Il ne dit rien à ses parents des abus sexuels qu'il subit. Pour le reste, il s'en sort plutôt bien. Adolescent, il se découvre une passion pour le piano et se rêve concertiste. À 23 ans, il change d'orientation et devient un travailleur social auprès de ses frères. Il se remet à la musique quelques années plus tard, grâce à son petit frère. Danseur et chorégraphe pour le Toronto Dance Theatre, René Highway lui demande de composer pour lui. Thompson se prend au jeu, puis rédige des textes pour accompagner ses musiques. Petit à petit, il devient dramaturge. Il sort sa première pièce, The Rez Sisters, en 1986. En 1998, il publie son unique roman, The Kiss of the Four Queens, traduit en français sous le titre Champion et Oh, oh, ni, mi, tu, édition prise de parole. Le livre raconte l'histoire de deux frères, cri, arrachés à leur milieu. Victimes d'abus sexuels, ils sont assaillis par la honte. L'aîné deviendra pianiste et le plus jeune danseur, avant d'être fauché par le sida. René Highway est mort du sida en 1990, à l'âge de 35 ans. Pour l'auteur, il s'agissait avant tout de réparer une blessure d'enfance, celle de son frère, la sienne, mais aussi celle de milliers d'autochtones qui ont vécu la même chose. Il n'y a rien qu'on puisse faire du passé. Il n'y a que l'avenir qui compte. Aho! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014? Au Brésil, David Kopenawa, chaman Yanomami, environ 50 ans. Né vers 1956 dans l'Amazonie brésilienne, près de la frontière avec le Venezuela, David Kopenawa est aujourd'hui le porte-parole emblématique des Yanomami. Il a été initié aux arts chamaniques par son beau-père, un chaman. Renommé de la communauté de Watoriki, située dans l'extrême nord-ouest de l'état d'Amazonas, où il s'est établi. Enfant, Kopenawa a perdu presque tous les siens lors de deux séries d'épidémies déclenchées par des visites de fonctionnaires du Service de protection des Indiens, le SPI, puis par l'arrivée de missionnaires évangéliques américains. Il quitte sa région à l'adolescence avec l'objectif de devenir un blanc et apprend le portugais à l'hôpital de Manaus où il est soigné pour une tuberculose. Après avoir travaillé comme interprète pour le FUNAI, le FUNAI, il ne cesse de défendre la cause de son peuple et de sa forêt. D'autant que l'intrusion de quelque 40 000 chercheurs d'or provoque la mort de milliers de Yanomami entre 1987 et 1990, en raison des violences et des maladies. Avec l'appui d'une ONG brésilienne, il obtient, en 1992, la reconnaissance légale du territoire Yanomami. Il a reçu de très nombreux prix. C'est bien parce que les Blancs importants, qui occupent toutes les terres des Indiens du Brésil, ne donnent pas de terres aux chercheurs d'or, que ces derniers viennent voler les nôtres. Aho ! Et aujourd'hui, qu'en est-il en 2014 ? C'était Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. À bientôt dans la quatrième dimension. Hey.